partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Paul Nathan au micro de Radio IDFM avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue à vous tous qui nous écoutez sur Radio FM sur 98.fr, pardon. Merci d'avoir choisi notre antenne et d'être fidèle au rendez-vous. Aujourd'hui, au sommaire de l'économie en direct, nous avons deux personnes, la troisième personne prévue étant malheureusement malade. Donc, nous avons deux personnes qui sont Tadia Al-Mikdad de Coachinov, donc qui fait du coaching et de la formation, et Laetitia Charbonnier, qui est la dirigeante de ASAP, hein, on prononce ça comme ça, spécialiste de l'emballage, de la reliure et du stockage de produits. Donc, on reviendra dessus. Donc, je commence par vous, Tadja, excusez-moi. Ah, c'est toujours... J'avais regardé une vidéo où la personne qui vous interviewait avait... Alors, le problème, un maximum, c'était... un coup, c'était Nadia, un coup, c'était Nadja, un coup... Bon. Donc, Tadja. Donc, est-ce que vous pouvez décrire votre parcours et ce qui vous a amené à créer Coachinov?
Bonjour Paul, merci pour cette invitation. Donc oui, je vais me décrire et je vais vous décrire Coachinov. Donc en fait, j'ai créé Coachinov tout simplement parce que j'ai souhaité créer un parcours que j'aurais voulu avoir en fait au moment où je suis passée manager. Donc concrètement, j'ai travaillé pendant très longtemps dans un grand groupe bancaire, le premier en France. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai plafonné à un moment. Je ne savais pas pour quelle raison. J'ai suivi une formation de coaching professionnel. Donc, j'ai été certifiée et j'ai été coachée, du coup, pendant cette formation. Et pendant ce coaching, j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que j'ai créé Coachinov. Alors, Coachinov...
Donc, c'était vous qui étiez coaché, hein? C'était
absolument.
Pas, vous n'étiez pas encore... coach.
Exactement. En fait, pendant la formation de coaching, pour vraiment exercer et donc tester les protocoles, etc., on se fait coacher et on coach nos collègues qui sont en formation avec nous. Et donc, j'ai été coachée pendant cette période-là, forcément, pour apprendre notamment les protocoles.
D'accord. Donc, pour manager une équipe.
Entre autres. Exactement. Mais pour aussi tout ce qui était confiance en soi, assertivité, leadership... prise de conscience d'un certain nombre de biais aussi que je pouvais avoir et que je ne voyais pas. Et cette formation m'a vraiment permis de prendre conscience d'un certain nombre de choses, notamment pourquoi je plafonnais au sein de cette entreprise-là.
Vous pouvez juste redonner la définition d'assertivité, parce que c'est pas un mot qu'on utilise tous les quatre matins.
Alors, moi je l'utilise pour dire que l'assertivité, c'est vraiment comment être conscient de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on peut faire. Voilà, c'est vraiment la confiance en soi au sens je sais ce que je peux faire et je sais ce que je suis capable de faire et d'apporter.
Donc c'est l'expression du potentiel.
Absolument.
D'accord.
Voilà.
Donc c'est beaucoup plus clair.
C'est un mot valise effectivement et parfois il y a beaucoup de choses qui se cachent et probablement qu'il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, mais moi c'est ce que je mets dedans.
Mmh. Voilà. Mais c'est vrai que en plus il y a des termes qui sont souvent des termes de métier finalement. Même si là on est plus dans la partie RH, hein, mais qu'on maîtrise plus ou moins. Et c'est vrai, par exemple, quand on parle de motivation et d'engagement, souvent on se dit mais attends, pourquoi je suis motivé donc je suis engagé.
Oui.
Et apparemment non. Donc c'est vrai qu'il y a des terminologies et il faut savoir aussi décrypter le sens des mots.
Oui, complètement. Je suis complètement d'accord. Effectivement, le coaching fait partie de ces mots-valises où tout le monde peut y mettre ce qu'il veut. On pourra en parler si vous le souhaitez. Mais donc moi j'ai fait un parcours en fait qui a été un peu particulier puisque j'ai fait des études économiques et puis je suis rentrée dans l'informatique dans les années 2000. Et donc mon parcours a évolué au sein de cette entreprise, notamment j'ai fait des cabinets de conseil et ensuite un grand groupe bancaire. Et à la suite de ça, j'ai fait cette formation de coaching qui m'a permis de prendre conscience que finalement, si je pensais que j'étais capable de faire quelque chose, ben, il fallait quand même que j'essaye et que je vois si réellement c'était possible ou pas.
D'accord. Donc ça, c'était à quelle période?
Ça, c'était en 2018. Donc j'avais déjà créé une première structure qui s'appelait Connect Park en 2017 et qu'on a arrêté en 2020 et j'ai créé Coachinov en 2020.
Et alors Connect Park, c'était ?
Connect Park, c'était une société, enfin une start-up qui était co-créée donc avec deux autres personnes où on animait des ateliers avec des robots et des objets connectés avec les enfants de 6 ans à 120 ans. Et donc l'objectif, c'était vraiment de sensibiliser aux soft skills au travers des outils digitaux.
D'accord. Donc finalement, vous avez repris un petit peu l'idée pour l'intégrer aussi dans Coachinov.
Absolument. Et c'est exactement ce qu'on fait au sein de Coachinov. Donc en fait, on accompagne sur trois piliers. On va accompagner sur du pilotage stratégique, sur du coaching individuel, du coaching d'équipe et du mentoring. Et puis on fait aussi de la formation. Et donc notre spécificité, c'est justement cette partie gamification, c'est-à-dire qu'on intègre les robots et les objets connectés, des jeux de cartes aussi concrets, pour apporter ce côté un peu gamifié qu'on faisait déjà avec Connect Park.
Alors on va rentrer un peu dans le détail, on va reprendre chacune des trois thèmes finalement. Le conseil en pilotage stratégique. Alors concrètement, parce que là aussi, il y a beaucoup de mots valises. Hein. Donc, concrètement, comment vous pouvez nous décrire la manière dont vous intervenez, peut-être s'il y a des secteurs où vous êtes plus spécialisé. Donc, voilà. Parce que souvent, c'est pour ça que j'aime bien commencer toujours par le parcours des gens. Parce que des fois, ça explique, si vous avez fait un parcours bancaire, est-ce que je connais mieux les banques que l'industrie? Eh bien, je vais aller plus naturellement me spécialiser dans quelque chose qui est en lien avec la banque. Mmh. Donc voilà, c'est un peu la question sous-tendue par la question quoi comme conseil en pilotage stratégique.
D'accord. Donc en fait, ce qu'on fait nous sur le pilotage stratégique, c'est qu'on va accompagner l'entreprise dans la déclinaison de sa stratégie en objectifs et en résultats clés. C'est la démarche qui s'appelle OKR, c'est Objective and Key Results. C'est une démarche qui a été inventée et utilisée par Intel dans les années 50 aux États-Unis, qui a été propulsée par Google en 99. Et en fait, je vous décris pas ce qu'a pu faire Google, hein, donc vous savez ce qu'ils sont devenus. C'est ce qu'utilisent tous les GAFA, toutes les startups et les grands groupes de plus en plus. Donc c'est une démarche en fait qui permet de décliner de manière vraiment méthodique, hein, les objectifs, la stratégie en objectifs et en résultats clés. Et donc ça permet en fait de piloter toutes les initiatives, hein, tous les projets, toutes les initiatives, de manière à être focus sur ce qui apporte le plus de valeur pour l'entreprise.
D'accord. Et donc le PMO là-dedans, c'est la personne qui est en charge du projet en appliquant la méthode OKR. On utilise beaucoup
de mots, oui,
d'acronymes.
Tout à fait. Alors, effectivement, PMO, c'est Project Management Office. En fait, le PMO, notamment le PMO stratégique, il vient lui justement pour piloter tout le portefeuille des initiatives et des projets, de s'assurer quand on le fait nous, hein, en tout cas puisqu'on est coach OKR aussi, à rattacher toutes les initiatives aux objectifs et aux résultats clés, de sorte à ce que, à chaque fois qu'il y a un projet qui se lance, on va vérifier en fait s'il est rattaché directement et s'il répond directement à la stratégie de l'entreprise. Si on voit qu'il ne répond pas ou qu'il y répond à moitié, on le dépriorise en fait.
D'accord. Donc voilà. Ça veut dire que votre rôle, votre mission, c'est d'accompagner le chef de projet. Hein, vous n'êtes pas chef de projet. Alors, vous l'accompagnez, vous êtes à côté et vous le coachez.
Absolument. En fait, on coache non seulement chef de projet, mais on coache surtout les responsables du portefeuille. Ça peut être des DSI, ça peut être des directeurs généraux, ça peut être... En fait, ça dépend de où est rattaché le portefeuille de projet qu'on veut piloter. Ça peut être juste un portefeuille de projet stratégique. Et donc, dans ce cas-là, en fait, on va accompagner celui qui va vouloir déjà décliner la stratégie. Souvent, c'est des CODIR ou des COMEX. ou parfois des top managers qui sont un peu... ça dépend de la taille, en fait, hein, de l'entreprise, bien entendu. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que la stratégie est déclinée en objectifs et en résultats clés. Et on va s'assurer que tous ceux qui vont lancer des projets sont vraiment focus sur la valeur qui est apportée par le projet en lien avec la stratégie. Et donc, on va accompagner dans la mise en place d'une de toute une gouvernance, hein, et de toute la démarche de pilotage, justement, de ce portefeuille. Le PMO, c'est un peu la tour de contrôle de ce qui se passe au sein de l'entreprise par rapport aux initiatives et aux projets qui sont
lancés. D'accord. Et vous avez dit un mot qui est important, c'est portefeuille de projet. Donc, il n'y a pas qu'un projet. Il y a X projets qu'on met en cohérence les uns par rapport aux autres.
Exactement.
Avec des chefs de projet qui peuvent être différents.
Absolument.
En fonction des thèmes.
Absolument.
Tout ça dans une logique stratégique qui chapeaute et qui couvre toute la vision globale de l'entreprise.
Exactement, c'est exactement ça.
D'accord. Alors, je continue. Donc ça, c'est le pilotage stratégique. Après, à côté, il y a le coaching. Donc on est déjà un peu à mi-chemin entre les deux, hein. Donc sur le coaching à proprement parler, par rapport à ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'on peut rajouter?
Alors, l'idée, c'était de se dire, je suis manager, je viens de démarrer mon activité, je ne sais pas comment je la pilote. Comment faire, justement, pour être aligné et donner du sens à mon équipe et aligné par rapport à la stratégie de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la première partie, c'est comment je pilote mon activité de manière stratégique. Ensuite, moi, en tant que manager, souvent, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est qu'il y a des managers, en fait, qui sont promus parce que c'était de très, très bons opérationnels. Et donc, ils se retrouvent managers sans avoir forcément été accompagnés, ou alors ils ont eu une petite formation, mais ils n'ont pas encore tous les tips nécessaires, justement, sur leur posture, sur la communication, sur l'incarnation du poste en tant que tel, parce qu'il y a parfois certains postes qui ne sont pas que de la méthodologie. Parfois, c'est aussi beaucoup de relationnel. Et donc, en fait, cette partie coaching, c'est comment je me fais accompagner, en fait, moi, en tant que manager, par quelqu'un qui va me guider. Mais en fait, le coaching, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un processus de questionnement qui permet à la personne de prendre conscience de certaines choses. Et ça va lui permettre de prendre conscience. Et nous, on va l'accompagner pour mettre en place son plan d'action, son propre plan d'action, celui qui sera vraiment écologique pour lui, donc qui va complètement lui correspondre. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'à la fin du coaching, on peut ajouter une petite partie mentoring où là, potentiellement, et encore faut-il que le client nous le réclame, on peut donner un avis avec des pistes. Ça permet en fait à la personne qui a ses différents avis d'avoir des cartes supplémentaires sur lesquelles elle peut aller potentiellement choisir, faire rebondir. Parfois, en fait, on peut donner des idées, mais la personne, elle va pas prendre cette idée-là, mais elle va rebondir sur cette idée vers une autre. Mais ça lui permet, en fait, d'avoir comme des fenêtres supplémentaires par rapport à celles qu'il avait avant, et donc voir un peu parfois les choses différemment.
Est-ce que ça arrive que des gens coachés ne soient pas demandeurs?
Alors, quand ils ne sont pas demandeurs, on ne les coache pas.
Parce que ça peut être imposé par le supérieur hiérarchique en disant tu as besoin d'être coaché, rencontre un tel. Moi je l'ai eu dans un autre univers. C'est la personne qu'il te faut à ce moment-là.
C'est une excellente question. Donc au sein de Coachinov, on ne va pas coacher des personnes qui ne demandent pas à être coachées, qui ne veulent pas être coachées. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que à partir du moment où la personne ne souhaite pas être coachée, elle va se bloquer, elle va vraiment être complètement fermée et elle va pas se mettre en mouvement pour identifier les plans d'action nécessaires justement au changement et à l'atteinte de l'objectif qui s'est fixé par rapport à ce coaching-là. Donc à partir du moment où elle est pas demandeuse, elle ne s'est pas forcément fixé le bon objectif et donc elle ne va pas forcément être acteur, actrice de ce changement-là. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est que on va qualifier avant de démarrer un coaching si c'est une problématique qui concerne le coaching, parce que parfois tout ne peut pas se résoudre par le coaching et on réoriente vers d'autres spécialités, hein, ça peut être des thérapies, etc. Mais lorsqu'on qualifie que c'est un problème qui peut être traité par le coaching et que la personne est engagée justement dans ce coaching-là, c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on va démarrer le coaching.
D'accord. Donc vous avez fait le coaching. Bon, ça s'est bien passé. Mmh. Il y a eu des plans d'action qui ont été déterminés. Est-ce que il y a un espèce de post-audit après coup pour voir un peu comme il y a dans la formation où on fait l'évaluation à la fin de la formation, mais c'est ce qu'on appelle une évaluation à chaud, et puis après on fait l'évaluation à froid, mettons 4 mois après, pour voir effectivement si la personne en a vraiment retenu ce qu'on en attendait.
Complètement.
Et là, en matière de coaching, est-ce que vous êtes amené aussi à faire, j'allais dire, un post-audit du coaching qui a été fait? Comment ça se passe?
Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on rencontre la personne la première fois, on va qualifier effectivement si c'est un vrai besoin de coaching. Parfois, il arrive même qu'une seule séance ne suffise pas en fait pour identifier vraiment le vrai problème de fond. Donc, on peut faire 2 séances avant de commencer vraiment. Et on a toujours une dernière séance, en fait. Donc, on va évaluer le nombre de séances totales par rapport à la problématique qu'on aura identifiée. Et il y a toujours une dernière séance, justement, pour clôturer le coaching et voir ce que ce coaching-là a permis d'apporter à la personne.
Ça, c'est à chaud.
Ça, c'est à chaud, exactement.
D'accord.
Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garde contact avec toutes les personnes qu'on coach, avec qui, en fait, il y a une relation qui est forcément privilégiée, puisque la personne, on crée vraiment une vraie relation de confiance avec la personne. Et souvent, les personnes reviennent vers nous, en fait, entre-temps, pour des petites questions, des petits conseils, des avis, etc. Donc, effectivement, on rencontre les personnes a posteriori, elles continuent à nous donner de leurs nouvelles pour nous dire, voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai fait, etc. Parfois même, il y en a qui reviennent 6 mois, 1 an plus tard pour un autre coaching sur une autre thématique parce qu'ils ont changé de métier, parce qu'ils ont pris conscience d'un certain nombre de choses et qu'ils veulent aller de l'avant sur d'autres thématiques.
Alors, par exemple, quel type de thématique il peut y avoir?
Alors,
dans celles que vous avez pu faire récemment, dans les derniers mois?
Récemment, alors moi en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, je fais des micro-coachings en fait. Vraiment, c'est pas forcément quelque chose qui est, c'est pas forcément ce qu'on fait hein, en temps normal. Souvent, on prend une thématique de manière générale, mais parfois, quand je vois des personnes qui sont en difficulté, j'essaye de faire un petit coup de boost sur une thématique. Récemment, j'avais rencontré une personne sur les réseaux sociaux qui cherchait du travail et qui s'était postée à la sortie de Station F avec un écriteau qui cherchait une alternance. Donc, je l'ai accompagnée justement sur toute la partie entretien. Et donc, il a réussi à décrocher une alternance et il a réussi ses entretiens. Donc ça, c'est vraiment un exemple très, très, très récent. Mmh. Mais de manière générale, on va accompagner différentes personnes sur des problématiques qui sont tellement variées. Ça peut être, par exemple, des entrepreneurs sur le lancement de leur projet. Ça peut être des entrepreneurs qui sont en difficulté sur une thématique et donc on va les accompagner sur cette difficulté. Ça peut être des problématiques managériales. Ça peut être des problématiques de performance, de gestion du temps. Et puis, on va accompagner aussi des personnes qui sont plutôt dans la performance, c'est-à-dire qu'elles veulent vraiment accélérer. Et donc là, notamment, on peut intervenir pour mettre en place les OKR, etc. Mais là, c'est plus vraiment du coaching. C'est un peu un mix entre coaching et mentoring. Il y a des thématiques autour du leadership, il y a des thématiques autour du management innovant, du management 3.0, etc.
D'accord. Donc, par exemple, dans le cas de croissance externe, on peut avoir recours à vos services pour... Alors, je sais plus si c'est du pilotage stratégique ou du coaching. Hein, on est peut-être à mi-chemin pour aider à l'intégration de la structure, parce qu'on sait grosso modo dans une acquisition ou dans une fusion, il y a 50% qui échouent pour des problèmes de culture d'entreprise entre autres. Donc là, vous pouvez intervenir dans ce cas de figure là. Alors du coup, en conseil, en pilotage stratégique ou en coaching?
En coaching d'équipe, parce qu'on fait aussi du coaching d'équipe, effectivement. Et donc là, typiquement sur toutes les fusions, et souvent les fusions qui ont beaucoup, beaucoup de mal à démarrer, c'est parce qu'ils ne sont pas alignés sur les valeurs, souvent. C'est parce qu'ils n'ont pas du tout la même culture initialement et qu'ils ont du mal à s'aligner sur les pratiques, sur la façon de faire, etc. Donc on va intervenir parfois sur du change, hein, donc c'est vraiment de la conduite du changement, et d'autres fois sur des thématiques qui sont très très axées coaching, sur définir la charte de l'équipe, définir les rôles et responsabilités, définir la gouvernance, comment on fait pour échanger, comment on fait pour communiquer, est-ce qu'on est une équipe ou on est un groupe, parce que parfois on a une tendance à attendre des choses parce qu'on considère qu'on est une équipe, et puis finalement quand on creuse un peu, on se rend compte qu'on est plutôt un groupe qu'une équipe. Et donc, on n'a pas forcément besoin de se rendre des comptes sur tous les sujets. Vous voyez ? Et donc, on va travailler notamment avec le jeu de cartes valeurs qu'on a créé pour faire en sorte à ce que les personnes incarnent vraiment les valeurs et que ce ne soit pas juste des mots qui soient placardés sur des murs et sur des slides. Vous voyez ?
Voilà. On va marquer une première pause et on se retrouve juste après.
Sans toi et me dire que tout ça reviendra. Réouvrir les plaies en essayant de retrouver le passé. Et puis vouloir oublier et tout refermer. Oh, il y a des jours, je te jure, c'est mes jours. Mes larmes coulent, j'en perds les mots. Il y a des jours, je te jure que je joue sans toi comme si c'était nouveau. Mais il y a des jours, je t'attends et j'avoue que tout est de plus en plus lourd. J'aimerais parfois faire demi-tour. Le temps fera les choses. On verra si on ose. Perdre nos raisons pour retrouver la maison. Le temps fera les choses. Tu me l'as dit. On peut dire que c'était mieux avant. Si on veut, on peut encore s'éviter longtemps. Une éternité qu'on se met, on se hait. Mais on le sait, tout ne tenait qu'à un fil. C'était déjà fragile. Mais c'est comme ça les familles. On peut s'aimer comme on se détruit. Oh, il y a des jours, je te jure, sur mes jours. Mes larmes coulent, j'en perds les mots. Il y a des jours, je te jure que je joue sans toi comme si c'était nouveau. Mais il y a des jours, je t'entends et j'avoue que je m'en fais pour toi à mon tour. Nos désaccords nous rendront sourds. Le temps fera les choses.
Merci d'être toujours avec nous sur IDFM Radio. Nous sommes toujours avec Laetitia Charbonnier de d'ASAP et Tadja Al-Migdad de Kochinov. Donc nous continuons avec vous Tadja et on termine juste sur cette partie-là. Où on revient peut-être en arrière parce qu'il y a une question que j'aime bien poser qui est le choix du nom. Donc, on a compris, Kochinov, et donc la partie innovation, j'aimerais que vous reveniez sur cette partie-là. Le nom est assez explicite, hein. Des fois, c'est beaucoup plus compliqué. ASAP, quand je poserai la question, en dehors de dire pour moi, à chaque fois, je disais ASAP, c'est as soon as possible, donc dès que possible, donc quelle qualité de service. Mais dans le cas de Kochinov, c'est assez parlant. Sauf que finalement, on oublie un peu la partie pilotage stratégique, on oublie un peu la partie formation, Donc je voudrais que vous reveniez sur la partie innovation et peut-être dans la répartition de votre activité, comment ça se répartit entre le pilotage stratégique, la formation et le coaching.
D'accord. En fait, Coachinov, le nom a été choisi assez spontanément en intelligence collaborative, c'est-à-dire que j'avais sélectionné plusieurs noms pour représenter justement le coaching et l'innovation. Et donc, j'avais soumis, en fait, les différents noms que j'avais sélectionnés à plusieurs personnes, à une bonne quinzaine de personnes. Et en fait, j'ai choisi celui qui a été sélectionné par la majorité des personnes.
Et alors, pourquoi avec un N et pas deux?
Parce que deux, c'était déjà pris.
Ah,
tout simplement.
Ça, c'est une bonne raison. Parce que à chaque fois que j'écrivais votre nom, à chaque fois, je mettais deux N et puis je disais non, il n'y en a qu'un. Donc, je me suis dit, il y a peut-être une motivation profonde. Ben, maintenant, je la connais.
Voilà. Mais bon, c'était aussi pour simplifier.
Donc, du coup, en quoi êtes-vous innovante avec deux N?
Avec un seul N. Justement, c'est ça l'innovation. C'est qu'on a enlevé un N.
Donc, innovante avec un N, dites-moi.
En fait, on essaye d'intégrer des outils qui vont permettre de gamifier nos ateliers et nos formations, lorsque c'est possible. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, quand on travaille sur la stratégie, il n'y a pas de quoi gamifier. Et donc, on va faire un atelier peut-être avec les jeux de cartes au démarrage pour créer vraiment une cohésion au démarrage. Mais on ne va pas utiliser les robots, les objets connectés sur cet atelier-là. En revanche, sur tout ce qui est, par exemple, collaboration entre les équipes, faire sortir les personnes des silos, etc., on a choisi d'intégrer ce qu'on utilisait déjà avec Connect Park, c'est-à-dire les robots, des objets connectés, des outils en fait qui sont digitaux, mais comme un outil et non pas comme une finalité en soi. Quand on intègre cette partie de jeu, en fait, les personnes sont beaucoup plus naturelles puisqu'elles se lâchent. Le fait qu'elles se lâchent, nous en tant que coach, on observe beaucoup plus de choses et donc ça nous permet vraiment d'être plus pointus. Sur l'accompagnement, vous voyez, et sur notamment à chaque fois qu'on fait un bilan sur ces ateliers-là, en fait, on distingue vraiment ce qui ne va pas. Et ce qui se passe aussi, c'est que le côté un peu ludique qui est apporté par le robot ou par les objets connectés va permettre de créer une émotion. Et cette émotion, en fait, elle va permettre d'ancrer l'apprentissage plus que si on utilisait vraiment des outils classiques. Et c'est pour ça aussi qu'on utilise ces outils-là, en fait. On est innovant au travers des outils qu'on utilise. Là, on est en train d'introduire la réalité augmentée, la réalité virtuelle, vous voyez. Donc, on essaie vraiment d'apporter des choses à chaque fois qui sont un peu dans l'air du temps, mais qui permettent quand même d'être impactants au niveau de l'apprentissage.
Alors, est-ce que vous pourriez nous donner, prendre une formation qui est dans votre catalogue et nous dire un peu comment, à titre d'exemple, comment ces outils peuvent intervenir, comment on peut rendre la formation beaucoup plus ludique? Il y en a une qui m'intéresse particulièrement dans votre catalogue, mais je ne sais pas si vous pouvez utiliser la gamification dedans, c'est sur tout ce qui tourne sur le travail à distance.
Oui.
Parce que c'est quand même dans l'air du temps, surtout dans des semaines qui sont très perturbées comme celles qu'on connaît actuellement. Donc ça veut dire que aujourd'hui, apparemment, il y a maintenant près de 40% des gens qui travaillent au moins une journée à distance. Donc on voit bien que on est en train de réinventer le travail. Le fait de travailler à distance peut aboutir à la journée de 4 jours, enfin bon, à la semaine, pardon, de 4 jours.
Oui.
Donc du coup, le travail va être réinventé, je pense, dans les années à venir. Et là, comment, j'allais dire, sur ce thème-là ou sur un autre, toute la partie gamification, robot, connectique peut intervenir?
Alors, je vous rejoins, effectivement, le travail est en profonde mutation, notamment par l'impact du Covid. Alors, sur la partie management à distance, c'est pas forcément, effectivement, celle où on va appliquer le plus d'outils un peu ludiques. En revanche, celle où il y a vraiment un impact qui est très flagrant, c'est la formation sur la collaboration.
Donc, travail en équipe.
Voilà, travail en équipe, l'intelligence collaborative. En fait, on a un atelier qu'on utilise qui est vraiment très surprenant en termes d'impact, c'est qu'on va utiliser, en fait, on demande à l'entreprise, enfin au groupe, hein, puisque souvent c'est un groupe de managers ou de collaborateurs, parfois c'est des équipes, on leur demande, en fait, on leur explique qu'on est une seule entreprise, qu'on souhaite produire un objet connecté, donc qui est une plante, en fait, enfin un robot qui déplace une plante vers une source de lumière. Et donc on va répartir les groupes. On va donner à quelques groupes les objets connectés et à d'autres groupes les robots, et on va leur demander de faire un certain nombre d'exigences par rapport au produit final. Et donc on va les mettre en situation, et en fait on va par exemple leur demander de trouver un nom pour ce produit. S'ils sont quatre équipes, ils reviennent tous avec quatre noms différents. Et il n'y en a pas un seul qui se dit, ah bah tiens, si on est une seule entreprise, peut-être qu'il faudrait qu'on se consulte au moins pour choisir un nom. Et donc on va les mettre comme ça tout au long de cette expérience, dans des situations qui sont complètement similaires, où en fait ils vont vivre vraiment ce qu'ils ont l'habitude de vivre dans leur métier de tous les jours. Mais comme ils sont dans un côté un peu ludique, ils vont prendre plus conscience du fait qu'ils travaillent réellement en silo, quoi. Et nous, en tant que coach, justement, on va appuyer à chaque fois, on va faire en fait des petits sprints. À chaque fin de sprint, on fait ce qu'on appelle une rétrospective. Donc on va voir ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Et donc on va faire un peu le bilan de ce premier sprint. Et c'est là où ils prennent conscience que réellement ils travaillent en silo, que réellement ils sont pas forcément collaboratifs, ils sont pas forcément solidaires entre eux. Quand il y a un leader, bah parfois on donne pas les rôles et responsabilités, on les nomme pas. C'est vraiment un atelier qui permet de ressortir tous les travers qu'on peut rencontrer sur un projet ou dans une entreprise.
Et alors après, il y a une plénière où vous essayez de mettre en cohérence les quatre résultats ou pas ?
Exactement. Il y a une plénière. On travaille beaucoup sur les valeurs de l'entreprise aussi, parce que parfois vous avez des entreprises qui ont dans leurs valeurs la collaboration, mais quand on voit dans les faits, ben, personne n'incarne la collaboration. Donc tout le monde est d'accord sur ce que c'est que la collaboration, mais il n'y a pas une seule personne qui a la même définition que l'autre sur ce que représente la collaboration, et personne ne dit comment il incarne réellement tous les jours cette collaboration. Comment je fais tous les jours pour être collaboratif vis-à-vis de mes collègues, par exemple.
Alors, je reviens juste quand même sur la partie mieux manager à distance. Là, quelles sont les clés ? Parce que c'est vraiment le souci du moment. Hein.
Complètement. Aujourd'hui, c'est vrai que il y a deux choses. La première, c'est les managers qui n'ont pas été préparés, en fait, à manager à distance. Et il y a aussi les équipes qui n'ont pas été préparées à travailler à distance et à reporter à leur manager à distance. Il y a cinq éléments, en fait, qui sont importants par rapport au management à distance. Le premier, c'est la communication. C'est comment je mets en place, justement, un bon outil de communication, comment je fais pour communiquer auprès de mes équipes au bon moment, et comment je fais aussi pour récupérer les informations au bon moment. Hein. La deuxième chose, c'est la planification. Comment je planifie l'activité de sorte à ce que je sois pas constamment en train de me demander ce qu'ils sont en train de faire, au même titre qu'eux ne soient pas obligés de me reporter à chaque fois là où ils en sont, et que je me pose toutes ces questions-là. La troisième, c'est la collaboration. C'est comment je fais justement pour collaborer de manière intelligente avec mes équipes, mais potentiellement aussi mes équipes avec les autres équipes, parce que forcément, aujourd'hui, on est confronté à une situation qui fait que les équipes, elles se retrouvent plus toutes ensemble. C'est plus possible. Donc, je discutais avec une personne qui me disait « Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un pot de départ. » Vous voyez ? C'est assez impressionnant. Donc, la collaboration.
On le fait en visio, le pot de départ.
Oui, voilà. C'est ça qui est un peu dommage. C'est,
on évite aussi
j'apporte des croissants. Oui, non, mais bon. Un pot d'arrivée ou un pot de départ, ouais. Peu importe.
Le fêter à chaque occasion.
Quoi. Parfois, c'est des changements de poste. Hein, oui, les personnes changent juste d'équipe. Et le quatrième, c'est la motivation. Comment je fais pour maintenir la motivation de mes équipes et leur engagement? Et le cinquième, c'est la confiance. Comment je fais pour créer une équipe qui est confiante, sachant que la confiance fait partie des premiers éléments qui permettent de créer une équipe performante.
Alors, tout ça nous amène à la question du leadership. Parce que finalement, le rôle du leadership est essentiel et encore plus dans le management à distance. Et donc, j'ai vu que vous aviez une certification leadership. Vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste ?
Oui, tout à fait. Alors, en fait, avec justement mes partenaires, hein, qui me tirent souvent vers le haut aussi, on a, et puis avec une de mes anciennes associées sur Connect Park, Leïla pour ne pas la citer, on a créé un partenariat avec une entreprise américaine avec laquelle, en fait, on a suivi une formation pour être formateur en leadership. En fait, on a réfléchi sur quelles étaient finalement les références en termes de leadership. Et c'est vrai que les Américains sont quand même très connus par rapport à cette thématique-là. Et donc, en fait, on a créé un partenariat avec une entreprise américaine qui nous permet de certifier par rapport au leadership, justement au leadership même agile, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un monde qui évolue constamment. Et donc, le leader se doit d'être agile.
Alors, ça veut dire quoi, être agile ?
Être agile, c'est...
Parce que c'est là aussi, c'est un mot wagon.
Complètement.
Il y a beaucoup de choses derrière.
Oui, voilà. Tout à fait. Être agile, c'est savoir rebondir, c'est savoir réagir lorsque vous avez une pandémie et que vous devez réaligner toutes les équipes sur leur activité. C'est de savoir répondre aux besoins des utilisateurs, au support, lorsque finalement vous avez quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Et toutes les entreprises qui ont réussi justement à s'en sortir par rapport à la pandémie, c'est celles qui étaient justement agiles et qui ont réussi à s'en sortir, à rebondir de manière rapide. Alors, et efficace.
Entre agile et réactif, quelle différence vous faites ? Parce que souvent on dit dans d'autres temps, on disait la PME est réactive par rapport aux grands groupes. Or, on parle plus du tout de réactivité, on met agilité ou agile à toutes les sauces. Donc, comment on repositionne ? Il y en a un qui va plus loin que l'autre ? Probablement, agile va plus loin que réactif, non ?
Alors, selon moi, l'agilité, c'est d'abord un état d'esprit, hein, indépendamment de toutes les méthodes et démarches qu'on peut appliquer, c'est déjà un état d'esprit. Et c'est surtout être focus sur la valeur. C'est qu'est-ce que ça va apporter comme valeur ? Au-delà de la réactivité, parce que si je suis réactif et que finalement ça n'apporte aucune valeur, ça n'a aucun intérêt. Voilà un peu
schématiquement.
Voilà, c'est vraiment axé valeur.
Le temps nous est compté, oui, donc on peut ça. Pas. Autrement, il nous faudrait bien plus de temps. Mais merci pour cette réponse. Donc je reviens. Donc vous avez cet accord pour pouvoir, cette certification. Donc du coup. C'est dans le cadre de formation où les gens suivent la formation et après ils obtiennent une certification de leadership agile.
Oui, alors effectivement, c'est une certification qui vient d'un organisme américain qui s'appelle IC Agile. C'est un organisme en fait qui est très reconnu aux États-Unis sur l'agilité et notamment sur le leadership, entre autres. Hein. Et donc c'est une certification qui permet, c'est surtout l'apprentissage, parce que la certification c'est juste, entre guillemets, la médaille à la fin. Mais c'est surtout l'apprentissage qui permet d'être, de prendre conscience de qui on est, comment on réagit, de savoir gérer ses émotions, savoir travailler en équipe, avoir une intelligence émotionnelle. Donc c'est un tout, en fait, qui permet à la personne d'être... d'être plus un leader et plus vraiment un manager. Voilà. Sachant que justement, le monde du travail étant en évolution constante, aujourd'hui, vous voyez les jeunes, ils cherchent plus des leaders que des managers.
Donc on fait plus la part au charisme que la technicité.
La technicité reste importante. Et à aucun moment, il faudra l'exclure, hein, bien entendu. Mais ça ne veut pas dire que le manager est un technicien. Il peut aussi s'entourer de bons techniciens, de bons experts.
Alors, je passe à une toute autre question. C'est quels sont vos clients ?
Alors, aujourd'hui, nous avons des clients qui sont complètement différents. On va avoir des grands groupes. Hein, je ne sais pas si on a l'autorisation de citer les groupes, mais voilà, c'est vraiment de très grands groupes.
Si vous leur donnez, vous pouvez.
Alors, je sais pas, à la radio. Mais bon, on travaille avec... Enfin, il faut aller juste sur notre site. Hein, ils apparaissent. Hein, mais c'est des grands groupes du CAC 40. Hein. Et puis, on va avoir des petites structures qui vont nous solliciter, notamment des entrepreneurs qui vont nous solliciter sur du coaching individuel, entre autres. Donc, c'est vraiment très varié. Et c'est varié, notamment par rapport à la thématique pour laquelle on est sollicité. C'est-à-dire qu'on peut être sollicité sur des formations, par exemple, on a fait des formations pour BNP Paribas, par exemple, mais on va être sollicité aussi par du coaching individuel. Là, je ne peux pas citer les entreprises, c'est évidemment confidentiel.
Donc, du coup, grand groupe plutôt formation, coaching plutôt PME, disons.
Consulting aussi.
Consulting
pas mal,
aussi.
Oui, sur les grands groupes et les PME aussi, oui, tout à fait.
D'accord. Globalement, entre, j'allais dire... Les associés, les collaborateurs, les réseaux, vous avez, j'allais dire, un vivier de combien de formateurs, consultants qui peuvent intervenir? Parce que finalement, c'est important aussi, alors ça dépend aussi de la taille de l'entreprise, on revient toujours au même thème, mais souvent, dès qu'on est une entreprise de grande taille, le petit fait peur, entre guillemets, par le risque de rupture de service, en disant, s'il lui arrive quelque chose, il pourra plus assurer.
Complètement.
Donc, aujourd'hui, vous êtes organisé comment à ce niveau-là?
Alors aujourd'hui, nous sommes quatre. En revanche, on travaille avec un collectif de coachs qui peut monter jusqu'à 200 coachs. Donc en fait, aujourd'hui, on peut aller vraiment relativement loin par rapport aux différentes typologies de besoins. Il faut savoir que sur la formation, il n'y a pas besoin qu'on soit très très nombreux puisqu'en fait, on customise à chaque fois. Et aujourd'hui, en fait, la taille qu'on est suffit par rapport aux clients qu'on a. Cependant, sur certaines thématiques, comme par exemple le coaching, il arrive parfois qu'on propose trois coachs au coaché au lieu de se limiter à une seule personne. Hein. Donc on propose trois coachs et la personne choisit par rapport au coach qu'elle a. Donc on a des différents partenaires aussi qui nous sollicitent autant sur leur mission que nous les sollicitons sur les nôtres. Voilà, donc ça dépend vraiment des
donc
différentes...
Vous travaillez vraiment en réseau.
Complètement.
D'accord. Votre actualité? Vous lancez une formation sur le développement personnel?
Oui.
Quelques mots dessus?
Oui, tout à fait. Alors, nous lançons une formation, donc comme vous le dites, sur le développement personnel. C'est une formation un peu en mode boost qui est organisée sur 2 fois 2 heures. C'est en distanciel. Et c'est une formation qui va vraiment permettre à la personne de prendre conscience de qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime faire, qu'est-ce qu'elle veut faire. Et puis, surtout, quelles sont ses qualités sur lesquelles elle peut vraiment s'appuyer et quels sont ses points d'amélioration sur lesquels elle peut travailler. Et puis, en parallèle, on va la faire travailler aussi sur tous les biais qui peuvent... Enfin, pas tous, hein, puisqu'il y a 200, plus de 200 biais, mais certains, justement, notamment par rapport à la posture qu'on peut avoir parfois dans une entreprise ou dans une équipe, de sorte à ce que... En prenant conscience en fait de certains travers, ça nous permet de nous mettre dans une posture de leader et non plus dans une posture d'attentiste où on passe son temps à se dire ah oui mais mon entreprise elle m'a pas fait évoluer ou alors je passe les entretiens mais je les réussis pas etc etc. C'est vraiment tirer les gens vers le haut pour qu'ils prennent conscience de ce qu'ils peuvent faire de mieux en fait par rapport à ce qu'ils faisaient avant voilà. Donc c'est une formation qu'on lance là récemment, qu'on a lancée on démarre la première session le 15 mars. Et ce qui va se passer, c'est que on va figer le prix pour les étudiants et les personnes qui sont au chômage, pour vraiment leur permettre d'accélérer sur leur carrière professionnelle.
Alors je vais vous poser une dernière question qui est presque une question de coach et que j'aime bien poser. C'est votre meilleur souvenir professionnel ou votre plus grande satisfaction professionnelle?
Alors.
C'est une question de coach, hein.
C'est oui, mais c'est une question qui est excellente. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je travaillais quand j'étais salarié en fait et quand je suivais ma formation. J'avais un salaire qui ne me satisfaisait pas et en fait je me suis fait coacher et je suis passée d'un salaire à 2 chiffres à un salaire à 3 chiffres, ce qui était juste impensable pour moi à l'époque parce que je pouvais même pas imaginer que je pouvais passer un salaire comme celui-ci, et tout ça grâce au coaching, parce que justement je me suis fait coacher. Donc concrètement, parfois on se demande qu'est-ce que ça peut apporter. Ben moi, ça m'a apporté énormément. Parce que depuis, en fait, j'ai pris conscience que si je voulais quelque chose, il fallait juste que je me donne les moyens.
Ben, c'est une excellente conclusion. On va marquer une nouvelle pause et on se retrouve juste après avec toutes les deux et en particulier Laetitia Charbonnier.
Merci.
À tout de suite. Merci d'être toujours avec nous sur IDFM Radio. Nous sommes toujours avec Tadja Almigdad, je me suis pas trompé, de Kotchinov, et Laetitia Charbonnier d'ASAP. Donc, première question, la signification d'ASAP, et après, présentez-vous votre parcours et la société.
Bonjour Paul, bonjour Tadja. ASAP, donc, comme vous le disiez, c'est bien as soon as possible.
Je suis content de moi.
Et encore, certains me demandent encore l'orthographe, à ce jour. Non, pourquoi as soon as possible? Déjà, la société a été créée en 99 et à l'époque, c'est vrai qu'il était favorable d'être dans le haut
au niveau. Ah, toujours.
Bah oui, bien sûr. Donc, il fallait que ça commence par un A.
C'est Auchan.
Voilà.
Al Campo.
Et après ASAP.
Voilà. Avant Auchan.
Oui. Et donc, on a, c'est vrai qu'on a, enfin, pour revenir à la genèse d'Azap, donc elle a été créée en 99 par mon père. C'est pour ça que je dis que à cette époque-là, nous avions cherché le nom de cette structure-là quand j'avais 19 ans. Et Azap parce que nous sommes dans la distribution et que dans la distribution, ce qu'il faut, c'est être effectivement rapide,
agile,
flexible et tout
et
ça.
Réactif.
Et réactif. Et donc Azap, voilà, vient de là. Donc elle a été créée en 99 par mon père qui était dans le secteur donc de l'industrie du carton. Moi, j'ai pas du tout suivi au départ ce circuit-là. Moi, j'ai fait ma vie aussi dans le secteur bancaire. Comme quoi, c'est vrai
ça
que
mène
c'est
à tout, à condition
voilà,
d'en sortir.
Tout à fait. C'est un réel vivier, hein, ce secteur-là où j'ai reçu une formation exceptionnelle. J'ai trouvé. Pour ça, je remercie beaucoup. J'ai évolué pendant 12 ans dans le secteur bancaire où j'ai géré à la fin une agence avec des professionnels. Je m'occupais de professionnels et arrivé à un moment de ma vie où j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai eu mon père qui parlait de prendre sa retraite et qui envisageait de la prendre à horizon 2 à 3 ans. Et j'ai laissé cette idée de côté, mais toute ma famille me disait que j'avais le profil pour au moins m'intéresser à une reprise. Et c'est vrai que je me suis un petit peu questionnée. J'ai pas été coachée, mais avec mon père, on en a pas mal parlé. Il m'a décrit vraiment un tableau très très noir de l'entrepreneuriat, de la situation. Et à la fin, il m'a dit, t'es toujours OK pour tester? Et j'ai dit oui. Voilà, je me suis lancée. C'est vrai que 5 ans à gérer des structures professionnelles de tout type m'a permis quand même de voir un petit peu, de mettre un petit peu la tête dans la gestion d'entreprise. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir partir pendant 2 ans dans cette structure, ASAP, pour voir si c'était quelque chose qui m'intéressait et surtout voir comment on pouvait redonner un nouveau souffle à cette structure-là.
Donc ça, c'était entre 2012 et 2014 ?
Alors voilà, tout à fait. En 2012, j'ai intégré ASAP. Et en 2013, j'ai décidé de racheter la société, effectivement.
Ouais. Alors, les challenges que vous avez dû relever en rachetant une société, vous étiez déjà dedans, donc ça aide
voilà.
Quand même considérablement.
Tout à fait, avec la visite de la clientèle, hein, on est sur toute la France, d'avoir une vision aussi et d'avoir le ressenti des fournisseurs. Donc de toutes nos usines françaises et européennes, et de voir avec eux quels étaient les nouveaux projets qu'on pouvait réaliser ensemble. Et de là, j'ai fait ce que je savais faire aussi, c'est monter des dossiers de prêt. Et donc d'aller voir les banques et d'être de l'autre côté à ce moment-là et de vendre mon projet aux banques.
Alors, quand j'ai préparé l'émission, j'ai découvert le carton,
oui.
Le secteur que je connaissais peu, et j'ai été impressionné par les différents types de cartons.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce point-là, nous expliquer tous ces différents types, parce que je trouve ça assez assez bluffant.
En fait, c'est vrai que dans notre univers autour de nous, on est entouré de cartons. Quand on dit qu'on travaille dans le carton, ça fait un petit peu bizarre, mais il faut savoir que le carton, oui, vous l'avez dans toutes ses formes. Alors moi, je suis spécialisée dans le carton compact, c'est-à-dire, pour faire la différenciation avec le carton ondulé de vos cartons de déménagement ou d'emballage. Voilà. Et ce carton, nous sert pour le milieu de l'industriel. Que ça soit de la protection de palettes, de l'emballage quelconque, on monte en fortes épaisseurs pour faire de la reliure, tous les livres, les BD, les coffrets de parfum, les boîtes de jeux, les cartons d'invitation dans le milieu du luxe, la PLV, toutes les affiches. Donc c'est vrai que moi je commercialise uniquement la matière première qui est en feuille. Et en bobine. Et ensuite, nous avons notre clientèle qui sont des imprimeurs, les relieurs, les façonniers qui confectionnent les boîtages ou qui vont effectuer des impressions directes dessus. Voilà. Donc c'est vraiment l'âme de votre support ou de votre boîte que je commercialise.
Alors du coup, si je prends un exemple, au salon Effervescence, qui est le salon du Val d'Oise pour les entreprises, les traditionnels manches debout sont remplacées par des manches debout en carton. Là, c'est vous qui les faites ou c'est vos clients qui vont les faire?
C'est nos clients qui vont les faire, effectivement. D'accord. Nous, on va leur envoyer en fait les feuilles, enfin ou les plaques de carton, et ensuite elles vont
être
façonnées.
C'est eux qui vont les façonner.
Tout à fait.
D'accord. Voilà. Je comprends mieux. Et donc, du coup, il y a aussi le domaine alimentaire.
Tout à fait.
Alors, dans le domaine alimentaire, comment ça va se traduire concrètement?
Alors, concrètement, le carton que vous avez sur vos plaques saumon, les plaques saumon or et argent ou noir, les petites dessous de tarte que vous avez aussi, dans le milieu alimentaire, ça va être aussi, je dirais, la boîte de céréales que vous avez. Aussi, dans l'alimentaire, ça va être l'emballage de vos yaourts. Tous les produits... Alors, c'est vrai que maintenant, il y a une recherche d'économie. Et suite à une pénurie qu'on a tous un petit peu vécue, beaucoup d'industriels tentent de retirer cette partie-là d'emballage alimentaire. Mais bon, c'est quelque chose, effectivement, qu'on continue
à
fabriquer.
Donc du coup, dans votre mix produit ou mix client, il y a des changements, puisque tout à l'heure je parlais d'effervescence, mais ça veut bien dire que avant les manches debout n'étaient pas faits en carton. Donc du coup, on peut penser que le carton est plus écologique que d'autres produits. Donc
aussi,
en fait, il y a des déplacements, des frontières entre, en fonction des métiers. Où on peut penser qu'il y a plus écologique que le carton, et dans d'autres cas, le carton est plus écologique que...
Voilà, il y a aussi, je dirais, des phénomènes de mode, de sensibilité, d'opportunité, et c'est pour ça qu'il y a des marchés qui sont totalement en mouvement, et d'une année sur l'autre, il peut y avoir de grosses modifications. Il y a eu le plastic bashing et il y a d'autres structures qui vont enlever l'emballage complètement. Donc c'est vrai qu'on est en total transfert suivant les secteurs d'activité.
Alors du coup, j'ai vu toujours en préparant l'émission que vous aviez un logo FSC sur votre site. Donc est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et finalement au niveau d'ASAP, votre politique en matière de développement durable et de RSE?
Alors, le sigle FSC, c'est la gestion durable de nos forêts. Et on va dire après d'autres contraintes qui nous obligent. C'est une traçabilité à l'origine de l'arbre qui va être planté et ensuite coupé et matérialisé en fibre, en pâte. Et ensuite, ça va être une étiquette qui va suivre ce petit morceau de fibre tout au long de sa vie. Bon, sur des fibres vierges, j'avoue, c'est très bien tracé. Ensuite, quand on parle de carton recyclé à 100%,
c'est bien plus compliqué.
C'est un peu plus compliqué.
En même temps, c'est recyclé.
Donc, c'est recyclé, tout à fait, avec beaucoup d'autres choses.
Voilà. Donc du coup, l'importance de la recyclabilité, je ne sais pas si on peut utiliser le terme, dans la recherche des produits clients, comment ça se passe dans la relation avec vos clients à ce niveau-là?
Nous, on est FSC depuis, 2002. On a souhaité l'être très rapidement pour ne pas finalement manquer d'affaires. Voilà, pour permettre notamment vers nos clients qui étaient quand même des gros groupes de pouvoir être présents. Le carton est recyclable. Le problème, c'est qu'il est sans cesse modifié tout au long de sa vie pour être au final un coffret. Et la problématique, c'est que cette recyclabilité va être détériorée si on imprime dessus, si on fait de la du contre-collage dessus, etc. Donc, les gens qui cherchent effectivement à avoir cette certification FSC et recyclabilité jusqu'au bout, elle est très difficile, finalement. Et c'est une philosophie, voilà. On peut pas demander à un carton neutre. On peut utiliser le carton neutre. Maintenant, on le fait de plus en plus. Vous voyez, j'ai même moi un calepin avec très très peu de modifications. Ce calepin peut être recyclé très rapidement. Maintenant, il y a tout un cycle de recyclage qui est mis en place avec des grands groupes, hein, Paprec pour pas les nommer, pour pouvoir séparer, par exemple, la couche d'impression. Et permettre à cette âme-là d'être recyclée. Donc tout carton est recyclable. Donc ça, il faut le savoir. Après, il faut voir quelles sont les différentes manipulations qui.
Et donc dans la chaîne, pour que je comprenne bien, vous rachetez du carton neuf et du carton recyclé,
oui.
Où vous avez des partenariats qui font que le carton recyclé, je veux dire, vous récupérez aussi du carton neuf que vous avez vendu à des clients, que vous faites rentrer dans une chaîne de recyclage.
Voilà, alors non, moi je n'opère pas dans cette chaîne-là. Moi je fais fabriquer du carton qui va être soit des fibres vierges, donc notamment des cartons bois, du carton bois pulpe qui va servir pour des Marie-Louise ou des Tsutbok. C'est un exemple comme ça pour situer un petit peu ce carton-là. Ou sinon, je fais fabriquer mes plaques de carton et c'est l'usine elle-même qui s'approvisionne de fibres et qui, elle, me certifie qu'elles sont 100% recyclables ou 70% ou 50%. Voilà.
Alors, qu'est-ce que c'est que des produits avec un pH neutre? Parce que ça m'a interpellé quand j'ai vu ça. Et en fait, j'ai découvert aussi, et vous venez de le dire, le bois pulpe.
Oui.
Et donc, c'est des choses que j'ignorais totalement. C'est pour ça que j'ai dit, oui. Je me suis pris d'une passion pour le carton en disant d'un seul coup, c'est fou ce qu'il peut y avoir.
Il y a une diversité, c'est-à-dire que le carton bois pulpe, en fait, c'est l'âme même de l'arbre. Voilà, c'est quand vous prenez l'âme de l'arbre, vous avez cette fibre-là, et c'est elle-même qui va être travaillée et mise en feuille, tout simplement. Donc ça, c'est le carton bois. Après, vous avez donc les cartons à pH neutre.
Voilà.
Donc ça, c'est dans le process de fabrication des usines qui vont retirer des substances qui vont permettre justement d'utiliser le carton pour notamment les boîtes d'archives, par exemple, pour conserver des documents sur une très longue durée. Voilà. Donc on va décarboner, etc. Donc ça, c'est tout un processus qu'ont certaines usines, pas toutes.
On va marquer une petite pause. À tout de suite.
La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río. No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte. Y mandó la cuenta a los shows, ni el pasaporte.
más dura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, te fue. No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito.
Shakira, Shakira.
Tú te fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte. Porque ahora las bendiciones me llueven. Y quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida. Pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Yo estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito.
I'll be on the drums.
Mi amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé.
Vous êtes toujours sur IDFM Radio. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes toujours avec Tadja Almigdad de Kotchinov et Laetitia Charbonnier d'Azap. Et donc, nous continuons avec vous, Laetitia, et sur vos facteurs de différenciation. On en a une vague idée déjà, rien qu'avec le nom de la société.
Elle est agile. On parlait d'agilité tout à l'heure avec Tadja. De par, c'est vrai, sa taille. J'ai actuellement 5 personnes avec moi. Et non, je dis 5, mais non, 4. 4 personnes, je me compte dedans. Et c'est vrai que de par notre taille, on est assez agile et réactif en même temps. C'est un outil qui permet d'être un facilitateur, je trouve, d'opportunités pour nos clients, parce que nous avons un positionnement avec les usines, donc avec qui je travaille, qui sont françaises et européennes, d'avoir un positionnement qui leur permet eux d'avoir des opportunités sur des produits. J'ai dans mon environnement concurrentiel de grosses sociétés qui ont des contrats qui les obligent en fait à se positionner sur des cartons types. Et moi, avec mon petit catalogue, ça me permet d'avoir des opportunités avec des structures qui vont faire de la création de cartons, finalement, avec des rendus un peu exceptionnels, d'avoir eux-mêmes, ces entreprises françaises, d'avoir des opportunités sur le marché, que j'espère français. Voilà. Donc c'est un choix que l'on fait, c'est de travailler quand même sur un circuit qui se veut géographiquement court. Voilà.
Vous avez des plateformes de stockage qui font partie de vos facteurs peut-être de différenciation?
Oui, tout à fait. Alors que je sous-traite, un qui est dans le 77 et un qui est dans le 60. Voilà, j'ai 1000 mètres carrés de possibilités de stockage et des livraisons qui se font quotidiennement sur toute la France et limitrophes, pays limitrophes.
Les délais de livraison aujourd'hui, c'est...
On essaye de faire du 24-48 heures, sur...
Et ça, c'est différenciant? Tout le monde le fait ou...
Non, je dirais...
Vous êtes beaucoup plus, à nouveau, réactif que les autres en faisant ça?
Non, pas forcément plus réactif. Parce que je sous-traite justement ce transport-là. Je ne le maîtrise pas. Par contre, j'ai des partenaires qui font leur maximum pour. On essaie quand même de rationaliser aussi. Chose que ne font pas forcément mes confrères, c'est-à-dire que j'essaye aussi de sensibiliser ma clientèle en leur disant que de faire partir un camion pour une palette, c'est pas forcément dans l'air du temps, et que je cherche vraiment à rationaliser mes envois quand on a la possibilité de le faire. Après, soit ça répond à leur politique aussi, et puis dans les questions d'urgence, parce que si on s'appelle ASAP, c'est aussi pour répondre à des urgences. Il faut savoir que le marché, bah, maintenant, c'est immédiat. On me voit souvent avec mon téléphone autour du cou, mais parce que je réponds et mes équipes répondent, on va dire, dans la minute à nos demandes de devis, parce que la palette peut partir effectivement le soir même pour réaliser un carton d'invitation dans le luxe le lendemain matin. Donc c'est aussi, on sait s'adapter et on a des partenaires qui peuvent répondre très rapidement. Après, on essaye de voir la réalité de l'instant et de se dire, bon bah non, votre palette partira que demain et sera livrée, bah si c'est dans le sud de la France, qu'après-demain, parce que il faut s'adapter un petit peu.
Alors ça me fait une très bonne transition. Il y a quelques mois, vous me disiez que finalement le souci c'était pas les carnets de commandes qui étaient pleins, le souci c'était les approvisionnements.
Oui.
Et donc, où en est-on aujourd'hui? Et je vais élargir un petit peu la question, sachant que vous avez à côté de ASAP une fonction à la Chambre de commerce et d'industrie dont vous êtes élu. Et donc, vous avez en même temps un peu une vision globale sur ce qui se passe sur le Val d'Oise, puisque vous êtes élu de la CCI du Val d'Oise, du 95. Mmh. Et donc, est-ce que j'allais dire, au niveau d'ASAP, ce problème que vous pouviez avoir sur les appros, est-ce que il s'est un peu résolu? Et d'un autre côté, toutes les tensions qu'on peut en entendre parler sur le marché au niveau des entreprises et du Val d'Oise, quelle est votre vision aujourd'hui de cet aspect-là?
Alors. Donc effectivement, dans mon secteur d'activité, donc l'approvisionnement de matières premières, qui est la fibre de carton, le fibre de papier, les tensions, il y en a plus. Il y en a plus. Les usines maintenant sont dans une position où ils sont en demande de business. Les sociétés.
Donc ça veut dire qu'il y a un début de ralentissement à ce niveau-là ou pas?
Alors
ou pas encore. Il n'y a pas de lien à faire.
Il va y avoir un lien, je suppose. La problématique, c'est que dans chaque pénurie, il y a ce phénomène de on charge les stocks, on prend panique et on prend tout ce qu'il y a sur le marché, donc ce qui a créé un énorme bouchon.
Un peu comme l'essence pour les particuliers.
Voilà, ou le papier toilette tout simplement aussi, hein, ou paquet de pâtes. Mmh. Et ce vent de panique qui s'est vu en 2021, fin 2021 et tout 2022, on en ressent les conséquences. Les distributeurs et les clients sont chargés en stock. Les usines sont en demande de business pour remplir les machines.
Et donc, des process en continu, non?
Et oui. Et malheureusement, quand on est en recherche de business, il y a un phénomène de baisse des prix. Donc, on est confronté à un gros dilemme là actuellement. C'est vendre le stock à haut, alors que le marché qui arrive est très bas. Donc là c'est une problématique.
Donc ça devient une problématique de trésorerie aussi.
Tout à fait.
Tant au niveau des prix que des stocks.
Que des stocks. Et là c'est le branle-bas de combat, d'où des appels de confrères qui sont un peu paniqués et donc on discute un petit peu de notre stratégie sur le marché notamment français. Comment opérer pour la commercialisation de nos stocks à venir.
Donc Donc ça, c'est sectoriel.
C'est sectoriel.
Et de manière plus globale, avec une casquette CCI.
Alors oui, effectivement. Donc comme vous le disiez, je suis à mon deuxième mandat au sein de la CCI Val-d'Oise. Mes confrères, c'est vrai qu'on a une vision de chaque secteur qui nous est relayée, et il y a toujours des tensions d'approvisionnement dans le milieu de pièces métalliques ou des choses comme ça, de informatique. Donc il y a toujours cette tension là. Maintenant, je suis pas sur leur secteur, je sais pas du tout l'impact qu'ils ont à ce jour. Non, je sais pas.
L'aspect inflation ou l'aspect trésorerie, PGE, remboursement.
Si.
On en parle à la SCCI ou c'est pas.
Oui. Si, on en parle à la SCCI, on en parle aussi avec la Banque de France, des dernières informations qu'ils auraient pu avoir en remontée. Je suis pas sceptique, je suis très optimiste, mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant. La santé de nos entreprises est fragile, notamment en termes de trésorerie. Oui.
Mais les carnets de commandes, pour l'instant, ont l'air d'être là. Hein.
D'être là, tout à fait.
Donc ouais, c'est le côté positif.
Positif, oui. Et puis toujours stimulant, et puis toujours être réactif et anticiper, mais se solidifier aussi. Ouais.
Alors du coup, puisque nous sommes optimistes,
oui.
Vous prévoyez des recrutements ?
Oui, tout à fait.
Alors quel profil ? Plutôt commercial ? Toujours dans une logique de développement ? Parce que vous êtes une femme de projet.
Moi j'ai un profil aussi de commercial, j'adore ça. Aller sur le terrain, aller voir mes clients, mes fournisseurs. Et j'aimerais effectivement prendre un petit peu plus de recul aussi sur la gestion, puisque je suis dans l'opérationnel aussi, parce que j'adore ça. J'aime être auprès de mes équipes. Je recherche deux profils, puisque j'ai aussi chez moi deux seniors, dont une récemment embauchée, mais avec la problématique de retraite, va prendre sa retraite, mais veut continuer. Donc, on va mettre en place l'emploi retraite aussi. Mais il faut que je travaille la suite. Et donc, j'envisage deux profils, un assistant d'administratif et un assistant commercial. Voilà. Moi, me permettre aussi de prendre un petit peu plus de recul et aller sur le terrain.
Et dans le cadre des projets, vous m'avez dit aussi que vous réfléchissiez à de la croissance externe. Votre réflexion, on parlait de pilotage stratégique tout à l'heure, c'était d'aller plus vers, exactement le même métier et d'augmenter un peu votre dimension, ou de prendre des métiers complémentaires. Dans ce secteur qui est le vôtre, quelle est la meilleure stratégie ?
Alors avant ce qui nous est tombé dessus, j'avais comme souhait de me rapprocher d'une partenaire qui me réalise de la découpe, donc du façonnage de mes produits, et qui s'occupe aussi d'une partie de ma logistique, de me permettre d'intégrer dans mon outil la sous-traitance logistique. Et puis le Covid est arrivé et les études ont fait que on voulait construire un établissement de logistique et heureusement que nous ne l'avons pas fait finalement parce que la taille de ma structure nous a permis justement d'être très agile et d'avoir moins de charges pour passer cette période-là qui a été critique pour tout le monde, et on a pu à deux personnes continuer de travailler chez ASAP et de pouvoir s'en sortir. Donc finalement cet outil qu'est ASAP, je trouve, est très bien fait pour et malléable en fonction des contraintes qui peuvent arriver. Avec ce partenaire-là, on continue de travailler en partenariat, donc ça, il n'y a aucun souci, mais on a décidé de ne pas forcément s'associer aujourd'hui en tout cas. Et j'ai d'autres opportunités, j'ai eu d'autres appels, notamment d'un confrère et un autre d'un client. Ça va être aussi dans le même métier, mais ça va être complémentaire, plus dans l'aspect outil, c'est-à-dire dans l'aspect façonnage du produit. C'est-à-dire que moi, j'apporte mon expertise sur l'activité du carton, la fabrication du carton, et eux, ça serait complémentaire avec le façonnage. Voilà. La réalisation du coffret ou de la boîte.
Et donc, du coup, c'est des clients communs? Ou ça vous ouvre sur de nouveaux clients?
Non, ça nous ouvrirait sur de nouveaux clients et de nouveaux marchés.
D'accord. Donc, voilà. A priori, que du plus.
Voilà, que du plus.
Parce que quand on revient, effectivement, sur ce qu'on disait tout à l'heure, les rapprochements, quand 1+1 ne fait pas forcément 2, c'est souvent une problématique fait que quand on va chercher des secteurs, des sociétés complémentaires ou très très proches, on a plus de chances de jouer les complémentarités, d'agréger et de faire des synergies, y compris commerciales, avec l'ouverture sur des clients qu'on connaît déjà. On sait très bien que le coût d'un nouveau client est beaucoup plus élevé que la fidélisation d'un client.
On est d'accord, non. Et puis il y a énormément de freins. Il faut, quand on est un entrepreneur d'une petite structure, et c'est ce à quoi j'ai été confrontée avec ma partenaire avant Covid, c'est de pouvoir aussi se dessaisir de son bébé. Et ça, c'est un travail énorme et sincèrement, il faut être accompagné. Et nous, on l'a été, alors pas par des coachs, mais par notre expert comptable que l'on avait aussi en commun, mais qui avait une étude qui a très bien fait son job. Mais à un moment donné, l'affect effectivement est là et il y a l'adage qui dit charbonnier maître chez soi. C'est vrai que je me suis mise aussi de son côté parce que c'est elle que j'ai, elle allait intégrer à ZAP, lâcher son bébé a été très difficile pour elle et c'est pour ça que ça s'est pas fait parce qu'elle était pas prête. Et tout cet accompagnement, oui, que Tadja parle, c'est très important pour les entrepreneurs,
oui. Oui, on appelle ça, en règle générale, faire le deuil de son entreprise.
Oui, oui.
Et effectivement, moi, je l'ai vu souvent, le fait que les gens, ne serait-ce même quand ils vendent, ils se posent la question en disant, mais comment je vais pouvoir protéger mon personnel dans le cadre de cette cession? Et en fait, non, tu peux pas protéger ton personnel, tu cèdes.
Oui.
Donc, tu choisis probablement le repreneur qui te semble meilleur pour la pérennité de la société, mm-hmm. donc des emplois. Mais après, tu n'es plus là, tu cèdes. Et ça, les cédants, surtout les cédants créateurs, fondateurs, pour eux, c'est extrêmement compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que pour quelqu'un qui a racheté et qui recède.
C'est surtout ce que j'ai vécu, moi, puisque le créateur qui était mon père, quand j'ai racheté la société, les employés étaient favorables parce que se sont dit « c'est bon, c'est la fille qui reprend. » C'est vrai que ces personnes-là m'avaient connue en plus très jeune, donc ils savaient un petit peu ma philosophie, ma vision de l'entreprise. Mais le jour où j'ai signé le rachat avec mon père, et je dis bien rachat, je n'ai plus jamais revu mon père ou au bureau. Et ça, je l'ai
vu. Vous avez de la chance.
Oui, mais moi, j'adore mon père, mais je l'appelle tous les jours parce que, mais pour vous dire aussi que la transmission est très importante et coacher une transmission, à son importance.
Parce que les transmissions parents-enfants, c'est encore, souvent compliqué parce que,
on voit le
voilà, il y a toujours l'image derrière. Du père derrière, qu'est-ce qu'il aurait fait, et le père qui vient donner ses conseils avisés. Donc c'est vrai que la transition, des fois, alors là, pour le coup, on a vraiment besoin de coaching pour gérer ce type de figures.
Effectivement, ça fait partie des accompagnements qu'on fait. Ça fait partie des accompagnements qu'on fait.
On va arriver au terme de cette émission. Est-ce que il y a une dernière question que j'aurais dû vous poser et que je ne vous ai pas posée, Laetitia, Tadja?
Lors d'une autre émission, peut-être. Avec plaisir.
Moi, ça m'a fait vraiment très très plaisir. Pour rebondir un peu à ce que vous disiez, Laetitia, nous, par exemple, sur le jeu de cartes valeurs, effectivement, on a conscience qu'on produit de la matière. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que on réinvestit en fait un pourcentage de nos bénéfices sur des projets de reforestation pour compenser en fait l'impression des cartes et donc la production de papier complémentaire. Donc
vous êtes cliente de Laetitia.
Bravo. Ben, on va l'être, effectivement.
Ça, certainement. Bah oui, non, mais c'est vrai que vous me parliez de la difficulté pour vous de trouver des façonniers, ceux qui réalisent le produit fini. Mais on en a en France et on en a aussi dans le Val d'Oise. On va parler d'effervescence où vous
on
en parlerez.
On va parler du Made in 95.
Et le Made in 95, pour le salon effervescence, et ben, vous verrez, on va dire du papier, des petits journaux qui vont être effectivement qui sont en train d'être réalisés avec des acteurs du Val d'Oise. Donc sachez-le, en tout cas, oui, on a un carnet d'adresses qui pourra répondre favorablement à ce souci-là.
C'est noté, merci.
De rien.
Merci à toutes les deux. Merci d'avoir partagé votre actualité. Merci à Francky pour la technique. Merci à vous merci. Tous, que de merci. Merci à vous tous merci qui nous suivez pour merci votre fidélité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à la retrouver en podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Entre-temps, n'hésitez pas à écouter Jacqueline Voraz sur l'économie en direct le mardi et le, je sais plus, vendredi matin. C'est l'âge.
Merci Francky.
Ah, ça devient dur. Merci Francky. Bonne continuation à tous. À bientôt.
Partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.